BW. Droits et libertés.
Vous avez sans doute déjà entendu parler des Ouïghours, c'est même certain si vous êtes un auditeur ou une auditrice fidèle de ce magazine. Pour les autres, les Ouïghours, ce sont des musulmans turcophones qui constituent une minorité en Chine, où ils sont systématiquement persécutés. Mais des Ouïghours vivent aussi en exil en Turquie, et ce sont eux qui nous intéressent cette semaine, car ils craignent ne plus être en sécurité là non plus. Et ensuite, nous irons voir du côté des Juifs marocains en Israël. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. La Chine tente en ce moment de persuader la Turquie de ratifier un accord d'extradition que les autorités chinoises ont déjà commencé à appliquer. Ankara est sous pression car la Chine est un partenaire que peu de gouvernements du monde ont envie de froisser et la Turquie non plus. Ça y est, un vaccin anti-coronavirus est désormais aussi disponible en Turquie et les doses proviennent de... Eh oui, de Chine. Les vaccins sont arrivés en Turquie avec 2 semaines de retard et il ne s'agit pas là d'une coïncidence d'après Seyit Tümtürk. Seyit Tümtürk, c'est l'un des 50 000 Ouïghours qui sont installés en Turquie. Il milite pour défendre les droits de son peuple et pour lui, ce retard des vaccins chinois est une illustration de la pression qu'opère Pékin sur les autorités turques.
Le timing est quand même bizarre, ça tombe pile en même temps que cet accord antiterroriste sur les extraditions entre la Turquie et la République populaire. La Chine l'a ratifié juste quand les doses de vaccin devaient arriver en Turquie. Le vaccin ne serait pas un atout que Pékin a joué pour faire pression ?
Seyit Tümtürk n'est pas le seul à s'inquiéter. La Société pour les peuples menacés à Göttingen en Allemagne met en garde contre l'application par Ankara de l'accord qui remonte à 2017 qui autorise donc l'extradition de Ouïghours de Turquie vers la Chine. L'ONG craint pourtant que ce soit le cas au vu de la crise économique qui prend de l'ampleur en Turquie. Et Seyit Tümtürk souligne que la diplomatie et le commerce de la Turquie sont désormais davantage tournés vers l'Est, la Russie et la Chine, que vers l'Occident. De nombreuses associations de défense des droits de l'homme dénoncent l'internement forcé de Ouïghours en Chine dans des camps de rééducation. Selon la version officielle de Pékin, il s'agirait seulement d'internats qui permettraient aux Ouïghours d'apprendre le chinois dans d'excellentes conditions. Gulbahar Çelil est elle aussi Ouïghour. Elle vit aujourd'hui à Istanbul, comme 20 000 autres membres de son peuple. Et elle a vu, elle, ce qu'il y avait dans ces camps chinois, puisqu'elle y a été elle-même internée. Elle raconte que les détenus y sont forcés d'écrire, qu'ils sont reconnaissants au gouvernement chinois et qu'ils sont bien nourris, alors qu'en réalité, ils vivraient dans des cellules exiguës et malodorantes, sous l'œil perpétuel de caméras de surveillance, sans chauffage et avec la faim au ventre. En 2009, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait fait référence à ces conditions de vie des Ouïghours de Chine. Il s'en était même scandalisé. Et à l'époque, il avait promis d'agir contre ces détentions forcées. Seyit Tümtürk avait même eu à l'époque un contact direct avec Recep Tayyip Erdogan. Seyit Tümtürk a grandi en Turquie, il n'a jamais vécu en Chine, ou plutôt précisément au Turkestan oriental, du nom que donnent les Ouïghours à leur province d'origine. Mais comme dans d'autres cas d'appartenance géographique litigieuse, les Chinois, eux, parlent de province autonome ouïghour du Xinjiang. Les parents de Seyit Tümtürk ont dû fuir la région dans les années 1960. Lui préside maintenant l'Assemblée nationale du Turkestan oriental. C'est en fait une organisation qui regroupe des Ouïghours d'une vingtaine de pays différents.
Depuis 2 ans environ, il y a des cercles qui tentent de se refiler la question du Turkestan oriental comme une patate chaude entre la Turquie et la Chine, comme si c'était de la faute des Ouïghours qui compliquerait les relations entre la Turquie et la Chine. Je pense que le président Erdogan a été dupé par de fausses informations qui lui ont donné une mauvaise impression de notre peuple.
L'exil turc n'apparaît donc plus comme un refuge assez sûr. Les services secrets chinois ont le bras long jusqu'en Turquie. En novembre, la Société pour les peuples menacés dénonçait une tentative d'assassinat d'un Ouïghour à Istanbul. Mais Seyit Tümtürk veut croire que les autorités turques vont résister et refuser de ratifier l'accord d'extradition.
Les gens du Turkestan oriental sont, d'un point de vue ethnique et religieux, apparentés aux Turcs. Le Turkestan oriental est une région à laquelle ils s'identifient et de laquelle ils se sentent responsables. Si la Turquie venait à ratifier cet accord avec la Chine, l'opinion publique turque serait très remontée et aucune autorité politique ne pourrait faire face à la colère populaire. D'ailleurs, on entend déjà des critiques dans les rangs de l'opposition.
Yurter Özcan, membre du parti d'opposition CHP, a déjà proposé, par exemple, dans une interview à la radio américaine Free Asia, que son parti fasse tout pour empêcher la ratification du dit accord. Pour l'heure, aucune date n'est encore prévue à la Chambre turque des députés pour discuter de la ratification éventuelle de l'accord. Et Seyit Tümtürk veut croire que c'est bon signe. Écoutez toujours la Deutsche Welle. Nous allons voir maintenant un autre effet de la diplomatie internationale sur la vie quotidienne des individus. Mais cette fois, on parle d'un effet positif, celui né du rapprochement scellé entre le Maroc et Israël le 22 décembre dernier. Un accord qui a empli de joie de nombreux Israéliens, surtout ceux qui ont des racines marocaines, soit environ 1 million de personnes en Israël. Ça, c'est la chanteuse israélienne Netta Eliakam que vous entendez derrière moi. Elle a enregistré de nombreux titres en Darija, c'est le dialecte arabe qu'on parle au Maroc.
Darija, for me, it's my mother tongue, because my mother grew up in Casablanca until she was 7 years old.
Le Darija, c'est un peu ma langue maternelle. Ma mère a grandi à Casablanca jusqu'à ses 7 ans. Je crois à la magie des langues maternelles. Comme je suis israélienne, les gens ne s'attendent pas à ce que je parle d'Arija. Mais pour moi, c'est politique. J'en suis fière. Et pour moi, c'est aussi une langue de l'avenir et non du passé.
Netta Eliakam fait donc partie du million d'Israéliens. C'est une estimation, bien sûr, qui ont des racines au Maroc. Ces juifs marocains représentent d'ailleurs la plus forte communauté en Israël, ce qui est plutôt étonnant, non ? Beaucoup sont proches du Likoud, le parti de droite conservatrice auquel appartient le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui est fier d'ailleurs de ce rapprochement signé avec le Maroc.
J'ai toujours su que ce jour historique arriverait. Les Marocains et le peuple juif ont de bonnes relations dans l'histoire récente. Tout le monde connaît l'amitié portée aux juifs par les rois du Maroc et le peuple marocain.
Jusqu'à la moitié de l'année 2020, Israël n'entretenait officiellement de relations diplomatiques qu'avec 2 pays arabes, l'Égypte et la Jordanie. En quelques mois, l'État hébreu s'est rapproché de 4 autres États, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan et le Maroc donc. Après la fondation d'Israël en 1948, il y a pourtant eu aussi au Maroc des pogroms antisémites. Mais l'idée que se font de nombreux Israéliens du royaume chérifien est plutôt teintée de nostalgie et une image idéalisée. Chaque année, des dizaines de milliers d'entre eux s'envolent d'ailleurs pour un séjour au Maroc, alors qu'il n'y avait jusqu'à présent pas de vol direct en charter entre Tel Aviv et Casablanca. En fait, avant même cet accord, il existait de véritables relations entre les 2 pays. Au niveau des services secrets, par exemple, la presse a rapporté que le Maroc avait ainsi autorisé des agents du Mossad israélien à écouter une réunion de la Ligue arabe qui se tenait à Casablanca, c'était en septembre 1965. Et en contrepartie, les espions israéliens auraient aidé le Maroc à enlever Mehdi Ben Barka, leader de l'opposition et alors ennemi juré du roi Hassan II. Il a été kidnappé en plein Paris, c'était en octobre 1965. et depuis, Mehdi Benbarka n'a plus jamais donné signe de vie. Sur la scène diplomatique aussi, le Maroc et Israël étaient proches avant l'accord de décembre 2020. À l'époque des accords d'Oslo, les deux États avaient même des représentations diplomatiques l'un chez l'autre. Mais c'est avec la deuxième intifada et le regain du conflit entre Israéliens et Palestiniens que leurs relations se sont dégradées. Chez la chanteuse Netta Eliakim, en tout cas, cet accord de 2020 suscite des sentiments ambivalents.
The peace agreement instinctively and very egoistically made me feel very happy.
D'un point de vue purement égoïste, cet accord de paix m'a empli de joie. Je me suis dit que ça serait beaucoup plus facile pour moi de me rendre au Maroc désormais. J'ai pensé à mes amis marocains, qu'ils pourraient me rendre visite. Mais après, j'ai pensé à tous les gens autour de moi qui n'ont pas la liberté de voyager.
Et là, Netta Eliakim pense aux Palestiniens, bien sûr, qui ont besoin d'un laissez-passer délivré par les autorités israéliennes pour sortir de la bande de Gaza ou de Cisjordanie.
Et là, je me suis dit que ce serait formidable que le Maroc soit plus présent ici. Il pourrait influer sur le processus de paix avec les Palestiniens. Pour le moment, ce sont les Américains qui s'en préoccupent. Mais peut-être que le Maroc, avec son histoire et son expérience de la coexistence, pourrait nous aider davantage à régler les problèmes du Proche-Orient.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Karin Zenz pour les sons de Turquie et à Benjamin Hama pour ceux en provenance d'Israël. Pour podcaster Droits et Libertés, rendez-vous sur notre site internet www.com/français à la rubrique Nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien. Bei meinen Reben ist gewesen, bei meinen